Bien, donc on avait souhaité, dans le programme de la journée, donner un temps particulier pour rendre visible un petit peu des initiatives locales de l'équipe nantaise ici qui nous accueille en termes de numérique. Et la métropole nantaise est quand même très pionnière et très efficace et investie dans la question du numérique. Et dans cette session de fin de matinée, on va avoir deux exposés. Le premier de Pascal Bollon, qui est premier adjoint au maire de Nantes. Et le deuxième de Kamel Fellache, qui est cofondateur de SpeechMe, solution pour de la vidéo éducative. Voilà, donc je donne la parole à Monsieur Bollon, qui va effectivement nous présenter un petit peu les initiatives de la métropole nantaise en matière de numérique. Merci.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord utiliser ma casquette de premier adjoint maire de Nantes pour souhaiter à tous ceux qui ne sont pas nantais la bienvenue dans notre ville. Je crois que ça a déjà été fait hier soir à l'hôtel de ville. Et puis féliciter évidemment et remercier le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et l'Université de Nantes pour avoir choisi Nantes pour une quatrième journée d'échange, je crois, sur les enjeux de la formation tout au long de la vie et sur l'analyse des opportunités offertes par le numérique. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui se situe largement autant, en tout cas au croisement, d'une politique de promotion de l'innovation et de mise en valeur de cette richesse extraordinaire de notre territoire en matière justement de numérique, avec des start-up, quelques pépites, et surtout un bouillonnement numérique qui font, et d'événementiel autour du numérique, qui font de Nantes, nous dit-on, la deuxième ville après Paris en la matière, ce qui est évidemment une référence, une réputation que nous avons grand soin et que nous essayons d'entretenir. Donc croisement de ces politiques d'innovation et de valorisation du numérique comme filière, mais aussi politique de l'emploi. Nous sommes un territoire, je ne sais pas si ça va s'afficher, il faut peut-être que je le commande, voilà. En fait, c'est moi qui décidais de tout. Nous sommes donc un territoire, pour rappel très rapide, de 610 000 habitants, avec une situation de l'emploi qui est reconnue comme étant plutôt favorable, puisque nous avons une progression de l'emploi en moyenne depuis 2007 tout à fait importante, comme vous pouvez le lire sur l'écran, et que nous avons comme caractéristique des emplois salariés privés qui augmentent de manière tout à fait importante, le numérique étant une des composantes essentielles de cette augmentation, et puis une place toute particulière dans nos territoires de l'Ouest en général et à Nantes en particulier sur l'emploi privé dans l'économie sociale et solidaire, ce qui fait partie aussi de la dynamique très spécifique du territoire. Le tout se traduit par un taux de chômage évidemment plus favorable que la moyenne nationale et nous souhaitons naturellement continuer sur cette bonne moyenne, mais qui a le défaut de toutes les moyennes, c'est-à-dire qu'elle ne rend pas compte des diversités de situations sur le territoire. Nous avons aussi des quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec des taux de chômage, notamment des taux de chômage des jeunes, qui sont tout à fait importants, et beaucoup trop importants, et naturellement, les politiques de l'emploi que peut mener la métropole nantaise, qu'elle peut impulser, vise d'abord prioritairement les publics les plus en difficulté au regard soit de l'entrée dans l'emploi, soit du retour à l'emploi, et notamment, on le sait, les habitants de ces quartiers qui cumulent les difficultés et les handicaps. Johanna Roland a souhaité faire du développement de l'emploi la priorité de son mandat. C'est pourquoi elle m'a confié, en tant que premier adjoint, à accréditer les politiques de l'emploi à la fois à la ville et à la métropole, puisque je suis vice-président de la métropole chargé de l'emploi. Et elle a souhaité que soit fait plus précisément et plus visiblement le lien entre une politique d'attractivité, une politique de développement économique et une politique spécifique de l'emploi en faveur de l'emploi. et de dire très clairement, si on cherche à faire en sorte que les entreprises s'implantent à Nantes plutôt qu'ailleurs, on est dans un contexte de concurrence territoriale, il ne faut pas le nier, c'est d'abord pour avoir de l'emploi. Si nous souhaitons que notre territoire soit attractif par la richesse de sa vie culturelle, par la richesse y compris de sa vie sportive, par la qualité environnementale qui s'en dégage, c'est d'abord parce que nous pensons que c'est favorable au développement de l'emploi, parce que c'est la préoccupation majeure de nos concitoyens, et c'est donc notre première préoccupation. Donc cette politique, ces politiques d'attractivité, de développement économique, et surtout, j'allais dire, la politique de l'emploi, ont une caractéristique en commun, c'est que si les métropoles ont un rôle, si les métropoles souhaitent se donner un rôle en la matière et avoir une attitude extrêmement volontariste, elles ne sont pas les premières titrées compétentes en matière d'emploi. L'emploi, c'est d'abord l'affaire de l'État, avec son opérateur qui est Pôle emploi. La formation professionnelle, c'est la compétence de la région. L'insertion, c'est la compétence du département. Et pourtant, les métropoles en général, et les métropoles nantaises en particulier, se vivent comme ayant une responsabilité particulière d'animation sur leur territoire. J'aime bien le terme d'ensemblier des politiques publiques qui se déroulent sur le territoire en faveur de l'emploi. Et naturellement, il ne s'agit pas de remplacer les opérateurs, il ne s'agit pas de doublonner les compétences des uns et des autres. Il s'agit de fédérer, de renforcer les complémentarités, de mobiliser, de co-construire, d'expérimenter et d'évaluer. Toujours l'évaluation au cœur de la conduite de nos politiques publiques. Et c'est cela qui nous a permis de lancer, à partir des priorités que nous nous étions fixées, c'est-à-dire l'emploi des jeunes, premier élément, l'anticipation des mutations économiques et l'efficacité des actions et dispositifs mis en œuvre sur le territoire qui devaient être renforcés, nous avons conclu avec l'ensemble des partenaires du territoire ce que Johanna Roland a souhaité impulser, c'est-à-dire un pacte métropolitain pour l'emploi. Alors ce pacte métropolitain pour l'emploi, voilà, il n'est pas, je le répète, il n'a pas pour vocation d'embrasser l'ensemble des champs des politiques de l'emploi. Ce serait évidemment une ambition déraisonnable, d'abord en termes quantitatifs, et puis je le répète, nous n'avons pas spécifiquement la compétence. En revanche, nous pensons que ce pacte, qui a été signé par 23 partenaires, nous verrons la liste dans la diapo suivante, doit être un espace de coopération territoriale publique-privée en faveur de l'emploi. Et nous faisons le lien ici avec notre politique très proactive en matière de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. Là aussi, il y a des éléments qui convergent vers une politique de l'emploi. Que le pacte métropolitain soit un incubateur de projets et de nouvelles solutions. Le terme d'innovation nous est particulièrement cher. Nous ne sommes pas les seuls. Il est à la mode, peut-être un peu galvaudé, mais nous essayons d'en faire la preuve concrète. Un cadre pour faciliter le déploiement sur notre territoire des dispositifs nationaux, régionaux, départementaux. Il s'agit bien de faire en sorte que les conditions soient créées de la meilleure efficacité possible au service de nos concitoyens, des politiques qui sont menées par ceux qui en ont la compétence, la maîtrise et la légitimité. Et de faire évidemment une démarche opérationnelle sur des enjeux prioritaires pour contribuer à cette croissance inclusive et durable que nous recherchons, pour accompagner les transitions. Nous sommes dans une période de transition, transition numérique, transition écologique, transition sociale dans beaucoup de domaines, et puis pour préparer les emplois de demain et faciliter le rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi. Nous faisons partie de ceux qui ne supportent plus la litanie qu'on entend trop souvent et qui correspond à une réalité de chefs d'entreprise, d'entreprises qui ne trouvent pas les salariés dont elles ont besoin, et à côté des salariés qui, notamment dans les quartiers prioritaires, se trouvent privés d'emploi durablement et en difficulté particulière d'insertion. Donc ce pacte métropolitain pour l'emploi, il a, vous le voyez là, 23 partenaires où on trouvera aussi bien les représentants patronaux que les organisations syndicales, aussi bien l'université que la chambre de commerce ou la chambre de métier et de l'artisanat, aussi bien Nantes Métropole que le rectorat de l'éducation nationale. On trouve là une mobilisation autour de ces objectifs opérationnels avec l'ensemble de ses partenaires signataires. Parmi les objectifs opérationnels que s'est donné le pacte métropolitain pour l'emploi, il y a une feuille de route qui comprend des dispositifs particuliers pour l'emploi des jeunes, notamment la question de l'accès au stage, notamment la question du décrochage scolaire, avec à chaque fois des actions pilotées par l'organisme le plus compétent. Là encore, ce n'est pas la métropole qui décide de faire tout. Et puis, pardon, l'anticipation des mutations avec l'emploi numérique. Il y a encore un événement cet après-midi organisé par la Maison de l'Emploi, les transitions, transition énergétique, et puis l'opportunité, pour l'anecdote, bien que ce soit un projet à 150 millions d'euros, ce qui fait un peu cher de l'anecdote, mais le déménagement du marché d'intérêt national de Nantes, qui va nous donner l'occasion de l'organiser un pôle agroalimentaire dans le sud de l'agglomération. Donc, dans ces anticipations économiques, il y a la question de l'emploi et du numérique. La question du numérique, d'abord, en tant que filière d'avenir, avec des acteurs pilotes, ADN Ouest, la Maison de l'Emploi, des acteurs impliqués, la CCI, mais aussi les organisations syndicales, mais aussi évidemment Pôle emploi, mais aussi notre agence d'urbanisme qui fait des études tout à fait essentielles et nous donne les éléments statistiques qui souvent sont difficiles à appréhender et même à trouver. Au niveau d'une métropole, on a des statistiques nationales, régionales, mais localement, on manque un peu d'éléments et d'outils, et notre agence d'urbanisme y répond largement. Donc, nos objectifs, c'est évidemment de mieux connaître les besoins des entreprises et les réponses déjà existantes, c'est-à-dire que rien que mettre en valeur l'existant et essayer de l'organiser, de mettre les gens en contact, favoriser, diversifier les recrutements, et enfin, attirer et favoriser l'accès aux métiers du numérique, pour l'ensemble des habitants de la métropole, et toujours avec cette idée de diriger prioritairement notre action vers les personnes les plus éloignées de l'emploi, vers les personnes plus en difficulté d'insertion, avec la conviction, et on l'a vu aussi au moment de l'opération de la Grande École du Numérique, où nous avons plusieurs formations à Nantes qui sont labellisées, que le numérique, c'est aussi une occasion d'insertion, de formation, de qualification professionnelle pour les publics qui n'auraient pas absolument pas l'idée de s'y intéresser. La caractéristique du numérique, c'est qu'il est vécu par les gens qui y sont souvent comme quelque chose d'extrêmement qualifié. On ne recruterait dans le numérique que des ingénieurs, que des bacs plus 5, alors que la réalité des besoins des entreprises est très différente. Et donc, en générant cette représentation et cette culture, on a un petit peu fermé la porte directement à des jeunes qui peuvent être y compris en difficulté scolaire, qui peuvent être y compris en situation de décrochage, qui n'ont pas les diplômes qu'il faut, mais qui, en revanche, lorsque Pôle emploi fait des recrutements par mise en situation, fait des recrutements par analyse des compétences et des savoir-faire, et ben on s'aperçoit qu'un certain nombre de formations, notamment du numérique, sont parfaitement accessibles à ces publics et représentent une véritable opportunité. Également, l'opportunité de féminiser un petit peu ce secteur. Le geek est forcément un individu mâle, avec un embonpoint certain, mangeant des chips devant son écran d'ordinateur. Ça, c'est la caricature que nous offre notamment le cinéma américain. Mais la réalité, c'est qu'il y a trop peu de femmes, de jeunes filles, qui s'orientent vers ces carrières. Et là aussi, nous pensons que nous pouvons aider les entreprises pour faciliter et diversifier leur recrutement. Alors, je ne sais pas si, comment on peut, Walter va me dire ça, on peut passer la petite vidéo ou pas, qui est sur le lien. C'est faisable? Il faut 2 minutes.
Edvice a voulu participer à la première édition du Tour du numérique en 25 jours pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on aime tout simplement ouvrir nos portes au monde extérieur. On aime bien cet échange avec des visiteurs de profils différents, que ce soit des étudiants, des entreprises ou des demandeurs d'emploi. Deuxièmement, parce qu'on veut jouer notre rôle dans la sensibilisation au métier du numérique. On est conscient qu'il y a encore beaucoup à faire pour que les opportunités de carrière dans ce secteur soient connues par tous. Et puis, troisièmement, c'est un beau challenge pour nous d'adapter notre discours, qui est habituellement destiné à d'autres entreprises, de l'adapter à des visiteurs de profils différents. Nous avons tout simplement organisé des portes ouvertes. Donc, on a commencé par une présentation globale de l'entreprise, suivie d'une visite guidée. Et puis, on a terminé par des échanges ouverts avec 3 salariés de métiers différents. Notre volonté était vraiment de montrer que dans ce secteur, les profils, les métiers, les parcours sont variés et que chacun peut s'y retrouver. On en attire que tout le monde est gagnant. On espère, avec cette visite, avoir peut-être donné envie, ouvert de nouvelles perspectives. Et puis, de notre côté, on a eu le plaisir de l'échange et de l'accueil.
Déjà en France, l'an dernier, il y a 50 000 postes qui ont été non pourvus dans le secteur informatique. Donc, il y a un vrai souci pour trouver des candidats. Donc aujourd'hui, l'ensemble des entreprises, et CJI en particulier, on essaie de trouver des solutions un petit peu différentes pour trouver des futurs candidats. Alors on travaille déjà depuis quelques années avec la Direction régionale de Pôle emploi, où on propose avec Pôle emploi de travailler sur des méthodes de recrutement par simulation. Un des sujets qui est majeur, c'est qu'on a une tendance à regarder les CV et l'expérience. Aujourd'hui, du fait de l'évolution de nos métiers et de la transformation numérique de nos clients, on a besoin de plus en plus de candidats qui ont des parcours peut-être différents. Et donc, au travers de ce qu'on appelle ces MRS, l'idée, c'est de travailler sur les habiletés et non plus sur les CV. La reconversion, pour nous, et le constat que l'on fait, c'est une vraie réussite, pour différentes raisons. Ça apporte auprès de nos collaborateurs qui sont issus en règle générale d'écoles d'ingénieurs, ça apporte une autre vision. Ça challenge aussi nos collaborateurs. C'est une première chose. Et pour ces personnes qui sont en difficulté, en recherche d'emploi, c'est des personnes qui veulent apprendre, et que ce soit des technologies, des méthodes de travail. Et pour nous, ce qui est intéressant, ce sont des personnes qui sont extrêmement fidèles et qui font des carrières très intéressantes au sein de CJI. On a également un rôle sociétal. CJI a ce rôle-là de recruter différemment.
Voilà les témoignages. Et ça, c'était un événement, le tour du numérique en 25 jours, organisé par la métropole, par la maison de l'emploi de la métropole nantaise. Et je ne peux pas ne pas, à ce moment-là, vous signaler, si vous n'en avez pas entendu parler, que le projet de loi de finances pour 2018 prévoit à ce stade la diminution par 2 des crédits de l'État en direction des maisons de l'emploi avant leur suppression définitive en 2019. Et que je ne saurais trop vous inciter, si vous pensez comme nous que ce rôle d'ensemblier, d'animateur d'un territoire au service de l'emploi et en l'occurrence au service du développement de l'emploi dans le numérique et pour rapprocher cette offre qui ne trouve pas suffisamment de demandes, eh bien si vous pensez comme nous, aidez-nous en participant à la mobilisation qu'on essayait d'impulser vis-à-vis du ministère de l'Emploi et du Travail pour que les maisons de l'emploi puissent continuer à agir concrètement sur leur territoire pour le développement de l'emploi. On a encore, on garde l'espoir que le Sénat, puis la commission mixte paritaire, ne coupera pas les vivres pour la métropole nantaise qui a une maison de l'emploi qui a un budget de 3,5 millions. C'est 15% du financement qui disparaîtrait. Naturellement, dans le contexte actuel, la métropole ne sera pas en mesure de compenser intégralement cette perte de recettes. Et donc, pourrait ne plus être en mesure d'organiser ce type d'événement dont tous les participants nous disent qu'ils sont effectivement efficaces et qu'ils remplissent le rôle qui leur est assigné. On a organisé une autre journée qui était la journée pilote de formation référent numérique parce qu'il faut que toute la chaîne d'accompagnement vers l'emploi soit consciente, au courant et connaisse les métiers du numérique. Il y a un paquet de métiers du numérique, je n'ai plus le nombre en tête, qui aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans. Et on sait que dans 10 ans, on ignore beaucoup des métiers qui se développeront. Et c'est pour ça que dans cette période de transition, dans cette période de mutation, il est tout à fait important que ceux qui sont chargés d'accompagner les demandeurs d'emploi, ceux qui sont chargés d'accompagnement en insertion et de guider vers une formation professionnelle, puissent connaître l'ensemble de cette filière et l'ensemble des opportunités qu'elle offre, parce que tout simplement, c'est des choses qui ne sont pas encore complètement rentrées dans les têtes et il n'y a pas forcément le réflexe de proposer aux gens de s'orienter vers ces filières. Le deuxième aspect de notre action en matière d'emploi dans le numérique, c'est pas de prendre le numérique comme filière indépendante, c'est de constater à quel point le numérique transforme les métiers, les filières, les industries. Et là aussi, l'action que nous pouvons mener territorialement de gestion prévisionnelle, territoriale des emplois et des compétences, se traduit, toujours dans le cadre du pacte métropolitain pour l'emploi, par une action notamment dans le secteur du bâtiment, où on s'aperçoit que récemment une imprimante 3D a construit une maison dans l'agglomération nantaise, où on s'aperçoit que, et dans les méthodes de travail et dans les réalisations, le numérique va avoir un impact tout à fait considérable sur les méthodes de travail et sur les méthodes de production du secteur du bâtiment, et que nous avons donc, là encore, avec cette capacité partenariale qui est un peu la marque et la richesse de notre territoire auquel nous tenons particulièrement, nous avons organisé cet événement, en l'occurrence sur le bâtiment et le numérique, mais également, nous le suivons, particulièrement dans l'industrie. Nous avons la chance d'avoir sur le territoire des fleurons industriels, Airbus à Nantes, mais il y en a beaucoup d'autres, et il y a aussi, bien sûr, à Saint-Nazaire, les chantiers navals. Toutes ces industries-là sont bouleversées dans leur mode de conception, dans leur ingénierie, par la révolution numérique. C'est générateur d'emplois, et c'est générateur, il y a des besoins de formation, et je voudrais saluer, par exemple, la politique d'alternance d'Airbus, qui est tout à fait exemplaire en la matière, puisque Airbus veille à encourager et à former des jeunes en alternance, et les moins jeunes, parce que la question de la reconversion est également posée, des jeunes et des moins jeunes en alternance pour pouvoir pourvoir ces emplois qui sont les emplois de demain. Alors, les premiers résultats que nous avons sont effectivement les développements d'outils et de suivi de l'emploi, une enquête sur les perspectives et les besoins des entreprises avec 1300 besoins de recrutement recensés lors d'une étude, des intermédiaires donc sensibilisés au numérique. Le tour du numérique en 25 jours, je vous en ai parlé, il a concerné 150 participants, dont 54% de femmes et 32% d'habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. On retrouve là nos priorités très clairement en la matière, avec des visites d'entreprises de gens qui étaient aussi éloignés de la filière numérique qu'ils le sont de l'emploi. Et puis, des opérations de pré-recrutement qui ont abouti à plus de 60 recrutements avec Accenture, avec Orange, avec à la fois des grandes entreprises, des majors du secteur, mais également, on l'a vu, des start-up, iAdvise étant évidemment la tête de pont en la matière, vous avez pu entendre tout à l'heure. Et puis, les expérimentations de process de recrutement qui sont tout à fait innovants et importants si on veut arriver à dépasser les blocages dont je parlais tout à l'heure. L'expérimentation, ça fait aussi partie de nos axes majeurs. Il faut inventer des choses nouvelles, il faut les évaluer, mais il faut ne se priver d'aucune innovation et d'aucune expérience. Voilà ce que je pouvais vous dire sans abuser du temps qui m'est imparti. Et je vous souhaite de bonnes journées de travail.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question ? Oui. Alors, si on pouvait amener un micro.
Bonjour, moi je travaille à l'ADEP, au ministère de l'Éducation, et je suis un peu étonnée qu'on ne parle pas du tout de l'aspect logiciel libre, puisque vu effectivement que l'État a moins de ressources, notamment au sein du ministère de l'Éducation, nous sommes en train de passer à l'utilisation de logiciels libres. Et évidemment, c'est un apprentissage qui est dur à faire, même pour des informaticiens. Donc, je pense que le grand public aurait aussi besoin de formation dans ce domaine. Et je pense que c'est, pour l'avenir, un grand champ d'investigation, même en termes d'emploi, puisque, de toute façon, les échanges monétaires et financiers se font toujours avec des logiciels libres. Donc les entreprises privées s'en servent également, mais les entreprises publiques, comme les ministères, ont particulièrement, à l'heure actuelle, pris ce virage. Donc je pense qu'il ne faudrait pas oublier ces logiciels et dans l'apprentissage des populations autour de ces logiciels. Voilà.
Comme je le disais, je suis plus spécialiste des politiques de l'emploi que des politiques du numérique en particulier, mais je ne peux qu'abonder dans votre sens. Et plusieurs événements ont déjà eu lieu d'ailleurs à Nantes, autour de la filière numérique, autour de notre cantine numérique Atlantique 2.0, autour des logiciels libres et de leur développement. Je peux vous dire que Nantes Métropole et la mairie de Nantes ont quitté leur suite Microsoft aujourd'hui pour être sur du logiciel libre. Et que, effectivement, ça fait partie de ce bouillonnement numérique de notre territoire et du sens du partage. On est aussi, évidemment, très ouvert sur tout ce qui est open data. Et ça fait partie vraiment de cette culture de l'échange et du partage sur le territoire autour du numérique et avec, à l'évidence, des débouchés en matière d'emploi et de formation.
Merci. J'avais noté dans ce que vous avez dit que l'objectif de la politique d'emploi de la métropole, et on comprend bien, c'est d'essayer d'installer une croissance inclusive et durable. Est-ce que vous pensez que les périodes de forte transition sont justement ce qui rend plus difficile le côté durable et aussi inclusif? Ou est-ce qu'on peut essayer de renverser la vapeur en disant faisons de la transition un levier pour aller vers plus d'inclusion et des pérennités des dispositifs et des stratégies?
Alors, c'est un principe qu'on essaie d'appliquer à de nombreux domaines, c'est de dire que lorsqu'on a des contraintes et des difficultés, on va essayer de les transformer en opportunités. Oui, c'est voilà. Assez banal et assez galvaudé. Là
on
aussi.
Aime bien y croire.
Mais en tout cas, s'agissant de la transition numérique, nous avons effectivement mis en place des outils et aidé les initiatives à se développer. Nous avons la conviction à Nantes Métropole que les choses ne sont jamais aussi bien faites que lorsqu'on aide les acteurs du territoire à les faire. Et cette agilité qu'il faut pour affronter ces périodes de transition et ces périodes de mutation, cette réactivité, nous savons bien que, quelles que soient nos volontés, nos systèmes institutionnels n'ont pas forcément la réactivité. Ils ne sont pas conçus pour, tout simplement, ils rendent d'autres services absolument éminents, mais cette agilité, elle est sur les porteurs de projets et les acteurs du territoire, notamment en matière numérique. Et toute notre idée, notre politique, c'est de dire, donnons-leur, y compris dans le cadre du projet urbain, qui est celui de Nantes, donnons-leur des lieux où ils vont pouvoir exercer leur créativité, où des start-up vont pouvoir se développer, où on va pouvoir faire émerger du territoire et attirer aussi de l'extérieur des forces nouvelles, des compétences nouvelles, des imaginations, des imaginaires, parce que je crois que le numérique en a aussi besoin, qui vont permettre, on est là à Stéréolux, dans un lieu qui accueille chaque année Scopitone, qui est l'événement de création artistique sur la base du numérique, et on a vraiment là des choses à donner à voir et à donner à voir à l'ensemble de la population. La croissance inclusive, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement qu'une petite élite étroite de gens spécialisés puisse profiter de leur passion et de leurs compétences, mais également que l'ensemble du territoire soit irrigué par ce type d'acculturation. Et je pense que dans cette période de mutation et de transition, qui n'est effectivement pas sans risque, il faut vraiment aller de l'avant, et c'est le moment de prendre des risques. Et dans ces périodes-là, le pire des risques, c'est de ne pas en prendre.
Voilà, et que plus encore dans ces périodes-là, le maître mot, c'est la question de l'accompagnement. Et ça, c'est vrai dans les stratégies politiques, comme c'est vrai, on l'a vu, dans tout ce qui est transformation de l'enseignement supérieur. Et effectivement, la question de l'accompagnement des étudiants, des enseignants, la formation des uns, la formation des autres, au service des uns et au service des autres, c'est vraiment un maître mot. Merci.